Mon titre ce matin, c'est « Quelle histoire te fascine et te façonne ?» Alors, je ne sais pas vous, si vous vous souvenez des histoires de votre enfance. En tout cas, moi, j'ai des bons souvenirs. Avec ma sœur, on était allongés sur des... On prenait des duvets, on s'allongeait dans le salon. Il y avait une chaîne hi-fi avec un tourne-disque, pour ceux qui s'en souviennent, avec des vinyles 45 tours. Et on était juste là devant le baffle. Des fois, on avait un petit chocolat chaud en plus à la main. Donc là, c'était le rêve. Et alors, il y avait Zorro. Alors, on mettait le disque, puis ça tournait. On avait un petit livret qui allait avec. C'est vrai, il y en a qui s'en souviennent de ça. Alors, il y avait Zorro, il y avait les sept petits biquets, il y avait le vaillon petit tailleur qui en avait sept d'un coup, etc. Toutes ces histoires-là, c'était magnifique. Et on écoutait l'histoire nous être racontée, et en même temps que l'histoire était racontée, on pouvait voir les images, on pouvait lire le texte. Et de temps en temps, il y avait un petit jingle pour Zorro, je crois que c'était un petit coup de fouet. On savait que là, il fallait tourner la page et que l'histoire était en train de progresser. C'était l'ancêtre des dessins animés pour les plus jeunes parmi nous. Hein. Alors, et on a écouté ces histoires, mais je sais pas, un nombre incalculable de fois. C'était des histoires qu'on avait pourtant lues, on avait écouté je sais pas combien de fois, mais quand le loup arrivait en imitant la voix de la maman, on se demandait toujours quand même, est-ce que les sept petits biquets allaient tomber dans le panneau ou pas? Il y avait toujours le suspense à chaque fois. Et à chaque fois, on redécouvrait la malice du petit tailleur qui donnait des coups de cuillère sur la tête des géants, Gorol et Morol, pendant leur sommeil, pour qu'ils finissent par s'assommer réciproquement, et puis ils pouvaient revenir tout contents, tout victorieux, et bien sûr avoir la main de la fille du roi pour l'avoir pour épouse. Juste là, je sais pas, peut-être ça commence à vous faire vibrer, et puis vous pensez à tout un tas d'histoires. Les histoires, elles nous fascinent, et elles nous façonnent. Parce que après avoir écouté un épisode de Zorro, on devenait Zorro. Alors quand on est dans la période de l'Avent, ben c'est pour nous aussi une période utile pour nous rappeler un des épisodes les plus importants de notre histoire, de l'histoire de Dieu et de l'humanité. Et donc ce matin, je voudrais explorer un petit bout de cette histoire. Et il y aura trois volets à la façon de faire. D'abord, ce sera un petit peu différent, donc si on va venir à la Bible vers la fin, ne soyez pas surpris, le format est un peu différent aujourd'hui. Je voudrais développer deux points avant ça. Pourquoi les histoires nous fascinent? Comment est-ce que les histoires nous façonnent? Et enfin, on va terminer avec quelle est notre histoire. Et peut-être c'est l'histoire de Noël comme vous l'avez rarement entendu à cette période. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on aime les histoires? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Ben, d'un côté, on aime les histoires parce qu'elles nous font échapper à notre réalité, elles nous font échapper à notre quotidien. Donc on se plonge dans un roman, on se plonge dans un film, et c'est une manière d'échapper à la réalité de son cœur, des fois, de sa vie. C'est mettre le temps en suspens. C'est comme sortir du calendrier, du train-train quotidien pour rentrer dans une autre réalité. La même chose avec les jeux sur l'ordi, et encore de plus en plus, on va être immergé dans ces histoires. Il y aura de plus en plus la possibilité de croire qu'on peut vraiment s'échapper dans une réalité virtuelle. De plus en plus de possibilités de confondre réalité et fiction. Donc il y a une façon dont les histoires elles nous fascinent parce que elles peuvent être une fuite pour nous. Et des fois, on a besoin ou on sent ce besoin-là en nous. Et de l'autre côté, c'est presque le balancier inverse. Les histoires, elles nous permettent de nous identifier, d'affermir notre réalité, de dire « Oh, c'est ok, c'est normal, puisque regarde tel héros et telle personne, il est en train de vivre la même chose que moi, je suis en train de vivre. » D'un côté, ça nous ancre dans notre réalité. Et si on voit une famille en difficulté dans un film, ça nous rassure. Un peu bête, mais c'est comme ça, on dit « Oh, ben on n'est pas tous les seuls. » Et je crois que c'est ça qui nous attire aussi dans les histoires. Je crois que c'est une des raisons derrière le succès de certaines séries télé, comme, excusez-moi des références, mais « Plus belle la vie », c'est hyper réel, ou c'est censé être hyper réel. C'est censé que quand on voit tous les personnages de cette fiction, en réalité quand même, on se dit, mais ça c'est la vie courante, c'est la vie normale. Scène de ménage, ou je sais pas quoi d'autre qui passe en ce moment. Il y a quelques années, le concept de télé-réalité était mis en avant. C'est ce concept qui dit, ben, arrêtons de vendre du rêve, soi-disant, vendons la réalité. De nouveau, c'est soi-disant, sans filtre, la réalité brute, comme s'il n'y avait aucun scénario derrière, aucun filtre. Mais méfiez-vous, parce que tous ces trucs-là sont très bien programmés, il y a des millions d'euros qui sont dépensés pour réfléchir. Rappelez-vous que les acteurs sont choisis. Pourquoi est-ce qu'on aime les histoires? Notre Créateur nous a fait de sorte que nous aimons les histoires, que nous les désirons. Nous avons été créés dans une histoire, pour une histoire. Les histoires qu'on lit, qu'on écoute, qu'on regarde à la télé ou au cinéma, qu'on se raconte, qu'on chante, elles sont puissantes pour modifier notre vision du monde et changer nos valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires dans votre famille que vous vous racontez régulièrement? Peut-être à la période de Noël, là, ce sera l'occasion autour du sapin, du feu, je sais pas quoi, de vous dire, ah, tu te rappelles, il y a 10 ans, quand t'avais fait ça, ou quand t'avais dit ça, ou... Et c'est des histoires qu'on aime se raconter parce qu'elles transmettent les valeurs de la famille. Elles nous rappellent l'identité de notre famille. Il y a des choses qui sont propres à notre famille de sang et qui nous rappellent notre identité commune. Toutes les grandes firmes mettent des milliers d'euros à communiquer sur leur histoire. Si vous allez sur les sites web de je sais pas quelle compagnie, vous allez voir les débuts héroïques et faibles, l'inventeur, le concepteur, la première idée, puis les défaites, les rebondissements, etc., puis jusqu'à le succès, les progrès. Les histoires, elles nous fascinent. Si vous avez vu un documentaire, peut-être sur les animaux, quand vous avez vu ce documentaire, après vous dites, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, quoi? Il faut faire quelque chose. Après avoir vu un reportage sur telle situation dans tel pays, on se sent responsable, on se sent poussé à agir. Ça nous fascine, ça captive notre attention et on est poussé à mettre en route des choses pour venir en aide. Connaître la vraie histoire, la seule qui est réelle, du coup, c'est extrêmement important pour nous. Et les temps de la vie de l'Église ou en famille, où nous nous redisons notre histoire commune, ils sont extrêmement importants. Cette histoire, elle est vraie pour toute l'humanité, mais tous n'en sont pas conscients. Mais pour nous, ça ne devrait pas être le cas. Et on devrait organiser notre vie de telle sorte à nous redire régulièrement l'histoire. Quel but y aurait-il d'espérer dans une fausse histoire, d'ailleurs? Ne vaut-il pas mieux vivre dans la réalité? Et vous avez remarqué, Dieu se révèle à nous dans la Bible, non pas en disant, voilà, c'est ça qu'il faut croire, c'est ça qu'il faut faire. Il se révèle dans une histoire. N'est-ce pas surprenant? La grande histoire de Dieu et de l'humanité, racontée de Genèse jusqu'à Apocalypse, est parsemée d'histoires un peu plus petites, mais qui font sans cesse référence à cette grande histoire. On en a un bon exemple en ce moment, quand on est en train de regarder Samson. Et toutes ces petites histoires convergent vers la grande histoire, et elles enseignent toutes une même vérité, une même réalité, dans laquelle nous, ici aujourd'hui, nous nous trouvons. C'est pour ça qu'on peut lire la Bible, on peut lire Samson 1000 avant Jésus-Christ, et encore être touché, impacté. Parce que nous comprenons que notre histoire fait partie de cette grande histoire de Dieu et de l'humanité. Quelle histoire te fascine? Les dernières histoires qu'on a entendues ces derniers mois, elles concernaient des citrouilles et des sorcières. Et la morale de cette histoire qu'on a entendue il y a quelques mois, c'est « Donne-moi ce que je te demande ou je te fais un sale coup ». Juste pour résumer, comme ça on est face à la réalité finale. C'est un peu choquant. Bien sûr, tout ça, c'est enrobé dans tout plein de choses. Ça paraît tellement naturel quand on voit ça dans les pubs ou dans les gentils sentiments qui essayent de minimiser les choses. On pourrait presque en rigoler, mais la vraie morale de cette histoire, c'est ça. L'histoire qui nous est vendue en ce moment, c'est celle d'un bonhomme rouge avec des lutins qui viennent du Grand Nord pour rétribuer les bonnes actions. Tu as été sage, tu as un cadeau. Tu n'as pas été sage, tu n'as pas de cadeau. en fin de compte, tout le monde reçoit des cadeaux. C'est que être sage ou pas sage, en fait, c'est très relatif. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Est-ce que vous commencez à voir que les histoires, elles nous fascinent, elles captivent notre attention. Il y a tout un univers dans lequel on rentre, mais plus que de nous fasciner, elles nous façonnent aussi, si on commence à y croire. Comment les histoires nous façonnent? Dieu a ordonné nos vies autour d'un calendrier. Il y a un ordre de jour, de nuit, de mois, de saison dans la création. Donc quand Dieu œuvre pour la création, il inscrit un calendrier dans cette création. Et quand Dieu œuvre pour la rédemption, pour le salut, il instaure aussi un ordre. Il y a aussi un calendrier pour marquer le temps et pour marquer nos vies. Il fait ça pour nous rappeler l'histoire à laquelle nous appartenons. J'aurais voulu faire ça, mais ça m'aurait pris trop de temps en fait. Mais constamment, les auteurs de l'Ancien Testament reviennent toujours sur une histoire en particulier, l'Exode, le passage de la mer Rouge. Sans cesse, vous pouvez être juste après que ça soit passé, ou au temps de Néhémie, des centaines et centaines d'années après ça, toujours, Dieu, ce que tu as fait dans le passé, refais-le encore maintenant. Et sans cesse, Israël est en train de vivre en rapport avec cette histoire. Il y a des fêtes qui viennent célébrer ça. Pâques, l'agneau pascal, la fête des huttes, des cabanes, quand on était dans le désert. Sans cesse, Dieu, dans l'histoire de la rédemption, veut ramener son peuple en particulier et toute l'humanité à voir l'histoire à laquelle elle appartient. Est-ce que vous vous souvenez, d'ailleurs, que dans la dernière série de messages dans l'évangile de Jean, Jésus prenait la parole à des moments spécifiques du calendrier. Et Jean, il fait en sorte de nous faire le lien entre les deux. La fête de Pâques, la fête des cabanes, la fête de la dédicace du temple. Et c'est pas un hasard quand il dit « Je suis la source d'eau vive » quand on est à la fête des cabanes et que ça parle de cette eau qui a coulé dans le désert. C'est pas un hasard que Christ est debout au milieu de la foule et il dit « Je suis la lumière du monde » au moment où le peuple est en train de se rappeler que dans le désert, il y avait la nuée ardente qui les conduisait la nuit. Tous ces événements étaient utiles comme signes, comme des poteaux indicateurs de ce que Dieu était en train de faire. Et quand Christ est là, il prend la parole, c'est pour donner le plein sens de l'attente à laquelle ces fêtes faisaient référence. Et qu'elles marquaient. Elles avaient marqué depuis des centaines d'années la vie du peuple. Et c'était une bonne chose. Si c'est une bonne chose pour nous de la part de Dieu, que nous ayons des rappels réguliers de la grande histoire, de la création, de la rédemption. Pas étonnant. Pas étonnant que tous les efforts mauvais sont faits pour tenter d'effacer cette trace, pour essayer de nous fasciner par d'autres histoires. Et s'il est possible de nous fasciner par d'autres histoires, alors elles vont nous changer, nous transformer, elles vont nous faire perdre de vue la vraie, réelle histoire. Elles vont modeler notre pensée, attirer nos émotions, éveiller d'autres désirs, d'autres attentes que celles qui sont légitimes devant Dieu. C'est ce que le serpent a commencé à faire dans le jardin. Il a commencé à raconter une autre histoire que celle que Dieu avait dit, racontée à Adam et Ève. Il a commencé à susurrer dans leur esprit une nouvelle histoire dans laquelle les hommes et les femmes seraient des dieux et non plus simplement des hommes. Et des femmes, je dis simplement, c'était glorieux d'être un homme, une femme, une créature à l'image de Dieu. Voyez, dès le départ, il y a des histoires concurrentes. Et l'unique et authentique histoire de la Bible est incompatible avec les fausses histoires. Les fausses histoires sont incompatibles avec la réalité dans laquelle nous sommes de l'histoire de Dieu, de la création et du salut. Décrite dans la Bible. Juste quelques fausses histoires que vous et moi on entend à longueur de journée dans notre contexte. L'histoire du matérialisme. Elle nous dit, et Cette histoire, elle aime bien être racontée dans les pubs. Vous avez remarqué que les pubs sont toujours sous forme de petites histoires, des petits scénarios. Parce que l'histoire te fascine, et quand elle t'a fasciné, elle commence à te façonner. Alors, ces petits scénarios te font voir une famille qui achète une voiture et voilà, tous leurs problèmes sont résolus. Donc, tu as besoin d'une voiture pour être un héros au quotidien. Ou tu as besoin de ces baskets pour avoir de la valeur. Ou tu as besoin de ce parfum pour être belle et aimée. Ça, c'est les mensonges, les récits du matérialisme. Il y en a un autre un peu plus sec, peut-être, mais tout aussi faux. La science, le rationalisme. Il explique tout par la science. Tu sais, c'est l'évolution. Il n'y avait rien avant cette vie, il n'y a rien après cette vie, il n'y a rien d'autre que ce qu'on peut voir. C'est une histoire sans Dieu. Les valeurs, c'est le hasard. La moralité, c'est relatif, tu sais, c'est contextuel, ça dépend des cultures. Pas besoin de rendre des comptes de toute façon. Et quand tu crois cette histoire, ça commence à te façonner, te transformer, et tu as une vision alors du monde qui devient très utilitariste, puisqu'il n'y a rien à attendre, puisqu'il n'y a pas de compte à rendre, je vais utiliser les choses pour moi. C'est une histoire qui parle de la loi du plus fort. Les plus forts survivent, les plus faibles, malheureusement pour eux, disparaissent. Vous voyez que derrière l'histoire, il y a des valeurs, il y a des choses qui essayent de capter notre cœur. Donc moi, je vais être fort. Comme ça, je vais pas disparaître. Il y a l'histoire nationaliste. Défendons notre patrie. Défendons nos droits. Retrouvons la grandeur de notre nation. La Corée du Nord, elle est complètement dans ce schéma-là. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'ils ont refait leur calendrier. Vous savez, ils sont, je sais plus en quelle année, mais selon la naissance ou la mort, je sais plus du premier grand leader Kim Il-sung. À la Révolution française, la nation française a redéfini son calendrier pour essayer de mettre la distance avec le divin, avec Dieu. L'islam redéfinit le calendrier autour de son prophète. Vous voyez, il y a d'autres récits dans le monde. Au Puy du Fou, si vous avez les moyens d'aller voir ça, vous allez voir l'argent et les effets, tout ce qui est investi pour mettre en avant une certaine histoire. C'est impressionnant. Juste hier, si vous avez zappé un peu sur la télé, vous avez peut-être vu quelques minutes où vous avez tout vu, des obsèques de Johnny Hallyday. Mais c'était assez intéressant, en fait, de voir comment la nation se raconte aussi au travers de ça. Et quelles sont les valeurs, et quels sont les symboles, et quels sont les discours qui sont là derrière. Il y a d'autres histoires encore. Une histoire qui devient de plus en plus forte, qui est de plus en plus entendue. Elle a un peu deux côtés. Le côté occulte et la version un peu soi-disant soft, c'est yoga, quoi. Alors on va gérer les forces de la nature pour son bénéfice. Et Dieu est un peu partout toi, t'as du divin en toi, et en fait t'as besoin de trouver cette lumière intérieure et de vivre pour faire du bien à toi-même. D'abord, sois bienveillant avec toi-même, surtout. Hein, et puis ça rejaillira sur les autres. Alors il y a une version très cachée, occulte, qui est présente. Il y a une version qui devient très acceptable socialement, mais c'est les mêmes racines. Il y a des forces dans la nature, et moi, je suis au centre de cette nature, et je suis capable de gérer ces forces. Donc je vais manger bio. Comprenez, il n'y a rien d'être de manger des choses bio, mais si ça devient ton Dieu, si ça devient ton histoire... Si t'es en train de adorer Gaïa, la terre, la mère, nature, c'est une autre histoire. Et elle est incompatible avec l'histoire que l'on trouve dans la parole de Dieu. Si manger sainement, c'est ton salut, t'es à côté. C'est pas la même histoire. C'est une bonne chose de faire attention à ce qu'on mange, mais attention, ne prends pas la mauvaise histoire. Encore deux choses. La parodie, les fausses religions, même les fausses religions chrétiennes. Je m'inquiète un peu parce que des fois, c'est subtil, il y a les mêmes personnages, apparemment c'est les mêmes événements, mais à la fin on peut arriver à une autre morale, à une autre définition des valeurs, à un autre objectif que ce pourquoi la première histoire a été donnée. Je ne l'ai pas vue, j'ai entendu, j'ai lu avec plusieurs reportages, je me pose la question sur la comédie musicale Jésus, qui apparemment est sortie ou va sortir. J'étais un peu abasourdi de lire un article sur un MOOC. Alors, j'ai découvert le terme, un magazine book. Donc, ça fait MOOC. Sur Jésus, qui va sortir avec. Il y a beaucoup d'efforts qui sont ainsi. Il y a beaucoup de qualités. Certainement, on va lire ça, on va être impressionné en disant, waouh, c'est, mais je, tiens, c'est, ça parle de Jésus, là. Ça doit être bien, ça parle de ceci, ça, je reconnais Pierre, je reconnais, certains mots ici, la grâce, l'amour. Est-ce que on sera assez vigilant pour vérifier si c'est bien la vraie histoire jusqu'à la fin et que c'est bien en phase avec la parole de Dieu? J'ai entendu il y a quelques années une histoire du petit chaperon rouge. Vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge. Il va voir, donc elle va voir, parce que c'est une petite fille, elle va voir sa grand-mère. Elle prend un raccourci dans la forêt, ce que sa maman lui avait interdit de faire, mais bon, elle rencontre le loup, bim, qui se dit, plutôt que manger seulement une petite fille, je vais manger et une grand-mère et une petite fille. Donc, il se fait renseigner sur l'habitation de la grand-mère, il engloutit la grand-mère, il se met à sa place dans le lit, et quand le petit chaperon rouge arrive, « Oh, grand-mère, que tu as des grands yeux, oh, que tu as des grandes dents !» Et là, le loup se montre, et il dit, « C'est pour mieux te croquer, mon enfant !» Hein, tu veux bien, hein. Tu vois, l'histoire te fascine, je le sens. Sauf que, dans l'histoire que j'écoutais à cette époque-là, petit chaperon rouge enlève son chaperon rouge, découvre sa ceinture noire de karaté, et bim bam, envoie le loup au tapis. Au début, ça commence exactement pareil, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes événements, mais la fin de l'histoire est pas du tout la même. Petit chaperon rouge s'en sort tout seul, il n'a pas besoin du chasseur qui vient le sauver. Et au final, c'est pas du tout la même histoire, en fin de compte. Les histoires qu'on entend sont incompatibles avec la vraie histoire, l'histoire de notre salut. Et le dernier danger, la dernière histoire à laquelle on mord bien volontiers, parce qu'on est tellement bombardé par cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'autre histoire que ton histoire. C'est l'individualisme à tout cran. Alors on réduit son monde juste à soi, à sa famille. On dit il n'y a plus de grande histoire qui englobe toute l'humanité. Il n'y a pas de méta-récit, si vous voulez, le terme technique. Juste, j'essaye de prendre soin de moi et déjà, c'est pas mal. Et puis j'essaye de pas faire de mal autour de moi et de ma famille. Et puis ça semble que réduire comme ça l'histoire à soi, ça paraîtrait humble. Écoute, je me préoccupe pas de grandes choses. On pourrait presque citer un des psaumes là qui dit « Je suis comme un enfant sevré, je m'occupe pas des grandes choses. » Mais en fait, c'est extrêmement arrogant, cette fausse histoire. Ça veut dire « Je contrôle tout mon univers. » Et si j'ai besoin de contrôler mon univers, ça veut dire que c'est pas juste moi, ma vie, ma maison, mes enfants, mon royaume, mais c'est-à-dire que les interactions avec les autres, ils doivent servir mes objectifs pour mon royaume. Par contre, je vais devenir très agressif si on commence à s'en mêler dans mon histoire. De quel droit est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a une histoire plus grande dans laquelle moi, je devrais m'inscrire? Et peut-être vous reconnaissez que parmi toutes ces choses que je viens de décrire, en fait, il y a des superpositions, il y a des choses qui se recoupent un peu. Et au global, si on devait résumer, c'est la grande histoire, la grande fausse histoire, c'est moi au centre. Et moi, je vais m'en sortir. Mais Dieu nous a donné une autre histoire à connaître. Toutes ces histoires dont je viens de parler et sont incompatibles avec l'histoire que nous avons dans la Bible. Dieu nous a donné une autre histoire à connaître. Vivons selon cette histoire. Voilà pourquoi le calendrier de la vie de l'Église est aussi marqué par la célébration des grands événements de notre histoire du salut. Ok. Noël, c'était pas le 25 décembre. On veut bien concéder ça volontiers. D'ailleurs, c'était peut-être pas en 0, peut-être en moins 4, bref, peu importe. Mais une chose est sûre, Dieu avait fixé des temps de fêtes et de souvenirs avant Christ, pour se souvenir de l'histoire. Et depuis 1500 ans, les premiers chrétiens ont aussi cherché à vivre en fonction d'un calendrier marqué par la grande histoire de Dieu et du salut des hommes. Pour se rappeler l'histoire telle qu'elle est vraiment. Et si la manière de faire a changé avec les cultures et le temps, il reste que plusieurs moments sont utiles et bons pour nous, qui marquent l'année. On ne devrait pas avoir honte ou se sentir bizarre avec ça. C'est vrai, on se méfie de la tradition, et on a raison si ça, elle prend trop d'importance, mais de toute façon, nous vivons avec des traditions. Ta vie quotidienne, elle est, il y a une part de tradition, parce que ça, quand même, ça, on va pas réfléchir à chaque fois et débattre sur toutes les choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on a un peu automatisées qui nous soulagent. La question, c'est de choisir notre tradition, c'est de être conscient de notre tradition régulièrement. Et notre culte, dans un sens, est à la fois semblable à ceux que j'ai vus en Afrique ou en Asie, et en même temps, c'est différent. Donc, il y a une part où chacun met un petit peu sa patte et sa culture, mais en même temps, il y a des choses qui sont fondamentales pour nous. Si vous voulez un exemple, les hommes et les femmes sont assis ici, où vous êtes assis où vous voulez. Dans beaucoup de cultures où je suis allé, ça n'aurait pas été le cas. On aurait vu les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Choisissons les traditions plutôt que de les reproduire sans comprendre. Choisissons les traditions plutôt que de les subir. Et je pense que c'est une bonne tradition, une bonne habitude dans l'Église chrétienne de nous redire constamment l'histoire, les événements marquants. Alors, on est dans la période de l'Avent, au mois de décembre, les quatre dimanches qui précèdent Noël. On est en train de justement se placer dans l'attente du Christ, en train de essayer de se mettre dans la peau des Israélites, à qui les promesses avaient été faites de l'envoi d'un Messie, d'un libérateur, et ils ont vu leur chemin chaotique toutes ces années, les moments de grâce où Dieu les relevait, et puis les fois où ils sont chutés de nouveau, lamentablement, et puis Dieu quand même revenait. Ils ont connu l'Exode, ils ont connu le désert, ils ont connu la royauté jusqu'à Salomon, l'extension du royaume, et puis ils ont connu la dégringolade avec l'idolâtrie jusqu'à l'exil. Ils ont connu le retour de l'exil, la reconstruction du temple. Mais c'est pas fameux. Il y a les Perses, il y a les Grecs, il y a les Romains maintenant qui sont là. Quand est-ce que Dieu va enfin envoyer le Sauveur? Et le temps de l'Avent, c'est une période où on est invité justement à nous rappeler de toute cette histoire. Et c'est un temps juste pas simplement pour nous rappeler les événements, mais aussi pour diriger nos cœurs dans cette même attente. Comme j'aimerais que Dieu vienne rétablir tout ce qui est chaotique dans ma vie. Comme j'aimerais que Dieu vienne rétablir ce monde qui va de travers. Comme j'aimerais que Dieu vienne encore se manifester pour enlever toute maladie. Comme j'aimerais que Dieu vienne pour enfin effacer toute larme, toute tristesse. La période de l'Avent, elle est là pour non seulement nous redire l'histoire, mais aussi nous façonner dans nos désirs, dans nos attentes. Et cette période de l'Avent, elle se termine avec la fête de Noël elle-même, quand on va célébrer que oui, dans le passé, Dieu a déjà envoyé son Fils. Oui, Dieu a promis aussi qu'il va revenir pour nous chercher. On n'est pas obligé de célébrer juste comme quelque chose du passé, mais comme quelque chose qui reste aussi actuel pour nous, une attente que nous avons encore maintenant dans nos cœurs. Et je vous encourage, du coup, à regarder ce mois de décembre avec les yeux, ces yeux-là, ces yeux de la Bible, ces yeux de la vraie histoire. Dans mes notes, j'avais prévu de parler des autres temps du calendrier de l'année, mais je crois pour des raisons de temps, je vais un peu aller très vite, mais juste mentionner l'épiphanie, la période qui suit Noël, c'est en janvier, et c'est un temps où on célèbre la révélation de la divinité de Dieu. Donc il y a la naissance, mais qui est ce bébé qui est né? C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le roi des rois. Et les rois et les sages de la terre ont vu ça. Et c'est pas juste le roi des Juifs, c'est le roi de toutes les nations. Donc en même temps qu'on célèbre en janvier la royauté, la divinité de Jésus, c'est aussi un moment où on se rappelle l'histoire, elle est pour toute l'humanité. Les îles lointaines entendront parler du Messie. Après l'épiphanie de février jusqu'à Pâques, c'est la période du carême. On n'a pas trop aimé ça au moment de la réforme, on a mis de côté. Ça ressemblait trop à un jeûne et à une œuvre méritoire qui nous permettait de mériter, de gagner notre salut, puisqu'on avait quand même jeûné, on s'était quand même privé. Donc nous, on a une part dans notre salut. Alors c'est vrai, on a un peu du mal, nous, dans notre milieu protestant évangélique. Mais on devrait quand même réfléchir aussi toute cette période qui mène jusqu'à Pâques. Et quand vous avez vu dans l'évangile de Jean toutes les difficultés, toute l'opposition que Christ a rencontrée, et comment il a persévéré, comment jour après jour il se soumettait à la volonté de son Père, jusqu'au jardin de Gethsémané, quand il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça nous conduit jusqu'au vendredi saint qu'on a célébré ces dernières années ici dans l'Église. Puis après c'est Pâques, la résurrection de Christ. Vendredi saint, on pleure le Seigneur qui est sur la croix en train de donner son sang, son corps brisé pour nos péchés, pour nos fautes. On est contrit. Mais le dimanche de Pâques, c'est la lumière qui resplendit. La tombe est vide. Le Seigneur est ressuscité. Il règne. Il a acquis notre salut. C'est lui seul qui a fait ça. Son sang, son sacrifice était pleinement efficace. Nous sommes justifiés. Il intercède pour nous au ciel. C'est la suite de l'histoire. C'est ça qui fait qu'on a encore espoir aujourd'hui. Et puis après Pâques, c'est Pentecôte, au mois de mai, avec le don du Saint-Esprit. Jésus l'avait promis, on ne va pas rester orphelin le temps de son absence. Avant qu'il revienne, il va nous laisser son esprit. Ce sera comme si lui-même est avec nous. Emmanuel continue d'être avec nous toujours, pas juste à Noël. Et après vous dites, mais de juin jusqu'à novembre alors? Ben oui, c'est le temps ordinaire, comme on dit, de la vie de l'Église. Parce que Dieu aime agir dans les grands événements, et on l'a vu ça aussi chez les juges et chez Samson, comme dans les petites choses de la vie quotidienne. La vie chrétienne, c'est pas que « wouh !» et « wouh !» et « wouh !» et toujours on est en haut de... Non, des fois c'est juste persévérer et vivre et écouter le Seigneur et marcher à sa suite, jour après jour. Les histoires nous fascinent, les histoires nous façonnent, c'est pour ça que on veut vivre en Église, en nous rappelant régulièrement l'histoire. Dans nos rassemblements, on se rappelle régulièrement l'histoire, dans les prédications, dans les chants, dans les prières, dans la Sainte Cène, dans les temps de l'année, comme ici maintenant, l'Avent, on veut se souvenir de l'histoire. On l'a déjà raconté, je l'ai déjà raconté dans cette prédication, mais regardez encore avec moi l'histoire de Noël, comme peut-être on te l'a rarement raconté. Lisons dans Apocalypse 12, je vais terminer avec ça, en lisant ce passage, quelques commentaires et quelques applications pour terminer. Apocalypse 12, vous savez que c'est le langage poétique, symbolique, apocalyptique, c'est-à-dire qui révèle les choses. Et Jean, dans cette vision-là, qui lui est accordée par Dieu, il montre une vision cosmique de l'histoire. Donc, j'avais vraiment envie ce matin de nous élever au-delà de juste notre ce qu'on peut voir, de voir la grande histoire. Et c'est plus que de la Terre, on voit vraiment du plus haut point de l'univers. Qu'est-ce qui se passe et dans les lieux célestes et sur la Terre. Lisez avec moi Apocalypse 12. Je lis dans la version Summer, une fois n'est pas coutume. Alors, et si vous voulez juste pas lire et juste écouter, c'est comme vous voulez. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je vais pas tout développer, mais si vous lisez l'Ancien Testament et Ésaïe en particulier et Ézéchiel, tout ce langage-là, il est déjà présent. Et Jean, il n'est pas en train d'inventer quelque chose, il n'est pas en train de décrire quelqu'un qu'on n'a jamais connu. En fait, il est en train de décrire le peuple d'Israël. Non, c'est pas Marie qui est décrite ici, c'est le peuple d'Israël. C'est Sion, décrite dans la parole de Dieu, comme une femme, comme une épouse pour Dieu. Et les 12 étoiles sont les 12 tribus qui constituent le peuple d'Israël. Et dans ce langage imagé et figuré, cette histoire racontée par Jean sous cette forme de vision, on voit que cette femme, verset 2, elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Et ses douleurs lui arrachaient des cris. Il y en a bientôt qui vont parmi nous sentir très réellement ces choses. Courage, mes sœurs. Elles sont bien placées pour savoir. Les promesses de Dieu pour un sauveur sont comme une grossesse. C'est tellement joyeux, mais à la fin c'est tellement dur aussi. C'est tellement pénible quand il faut expulser, sortir le bébé. Il y a des douleurs attachées à la grossesse depuis Genèse chapitre 3. Il y a des douleurs, mais ça aboutit, n'est-ce pas ? Et c'est la joie, c'est ça qui permet de passer au travers de cette difficulté. Elle est enceinte sur le point d'accoucher, et regardez verset 3. Ses difficultés, plutôt verset 5. Or, elle enfanta un fils, pardon. Donc ça finit bien. Il y a un fils qui naît. Mais regardez avant ça, verset 3. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Tout ça, c'est pour montrer son pouvoir. Un pouvoir qui singe celui de Jésus. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Si vous pensez que l'histoire de Noël, c'est pépère, détrompez-vous. C'est une histoire excitante, fascinante, inquiétante par certains côtés. Parce qu'elle nous parle aussi d'un combat entre le diable contre le plan de Dieu. Et avec le diable, tous les fils et les filles de la rébellion, tous ceux qui ont cru la mauvaise histoire, tous ceux qui ont cru qu'ils pouvaient se débarrasser de Dieu. Et nous étions partis de cela, si ce n'avait été la grâce de Dieu. Verset 5. Dieu a préservé un fils. La femme, elle enfanta un fils. Un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. C'est une citation du psaume 2, le sceptre de fer, un fils qui est désigné par Dieu pour régner sur les nations avec un sceptre de fer qui est enlevé sur le trône de Dieu. Ce n'est pas de la naissance de Jésus. Voilà Noël, voilà l'aboutissement de la grossesse, de toute la pénibilité de la vie avant la venue du Sauveur et du Messie. Dans les versets 6 jusqu'à 9, on voit que il y a le combat qui se poursuit. D'ailleurs, si vous doutiez que le dragon énorme couleur de feu était bien le diable, vous en avez une démonstration très directe au verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, on l'appelle le diable et Satan. Donc on sait que ce symbole-là est bien défini clairement. Et lisez avec moi, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Et eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. » Vous voyez, maintenant. Et à Noël, on va fêter ça. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le Messie a été envoyé. Et ce maintenant, il dure encore jusqu'à nous aujourd'hui. C'est maintenant le moment où le Messie a pris l'autorité en main. Et bien qu'il ait été cloué sur la croix, bien qu'il ait été élevé auprès de Dieu dans sa résurrection, il a dit en quittant cette terre, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà pourquoi, verset 11, « Nous pouvons vaincre. grâce au sang de l'agneau et grâce à l'histoire de l'agneau. Nous pouvons vivre en étant convaincus du témoignage, de la réalité de cette histoire et en parler autour de nous pour que d'autres, eux aussi, soient sauvés. Et voyez, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas écouté une autre histoire. L'histoire qui dit « Tu peux être au centre de ta vie et tout gagner toi-même ». Ils ont préféré la grande histoire, la vraie histoire, celle de la Bible. Verset 12. « Réjouis-toi donc, ciel. Vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Église de Cavaillon, réjouis-toi. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. C'est aussi pour toi. Réjouis-toi. Réjouissons-nous. » Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers nous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. C'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Nous aussi, dans cette période de l'Avent, on se rappelle des événements passés pour que nos attentes et nos désirs soient dirigés pour voir de nos yeux la fin de l'histoire, la fin définitive, la deuxième venue de Jésus. Oui, il y a encore des luttes, il y a encore des combats. On est en même temps assis dans les lieux célestes, mais on ne doit pas être troublé si aujourd'hui ça reste un combat difficile. Continue de tenir à la grâce de Jésus, à son sang qui a coulé, au témoignage de Christ. Celui qui t'accuse dans le ciel a été mis dehors du ciel et il ne peut plus nuire. Mais il est furieux, il veut quand même essayer. Voyez verset 17, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. Ça parle de l'Église, c'est-à-dire à ceux et celles qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il peut bien s'attaquer, mais il est vaincu. Est-ce que vous aviez déjà entendu l'histoire de Noël de cette manière-là, avec un grand dragon rouge, plein de yeux et de diadèmes et... C'est la même histoire de Noël. Et je voulais vraiment qu'on s'encourage les uns les autres à nous redire cette histoire. Rappelle à ton âme la grande histoire, la surprise de la naissance du Fils qui doit diriger avec un sceptre de fer. Et quand tu l'as dit à ton âme, dis-la à ton conjoint. Et quand tu l'as dit à ton âme, dis-la à ton ami. Dis-la à tous ceux qui sont autour, à ton frère, ta sœur. Si tu vis ce temps d'avant dans l'attente, si tu utilises ce temps pour élever ton attente, ton désir de voir Christ revenir, tu vas comprendre l'attente qu'il y avait au premier Noël pour la venue du Messie. Et quand tu vas lire les récits de cette période dans la Bible, ça va te paraître clair. C'est la même chose que nous. Dieu nous a donné une histoire à raconter. Racontons-la. Tout simplement. Dieu nous a donné une histoire à raconter. Pas juste des concepts à articuler, mais une histoire à raconter. Racontons-la. Les histoires sont fascinantes. Vous allez fasciner les gens autour de vous quand vous allez raconter l'histoire de Noël. Et quand vous allez les fasciner avec la vraie histoire, vous avez une chance de voir Dieu les façonner au travers de cette vraie histoire. Racontons encore et encore à nos enfants la vraie histoire de Noël, sans nous lasser. Peut-être tu l'as dit 2 fois, 5 fois, 10 fois. Moi, j'ai écouté 100 000 fois Zorro. J'étais toujours content de l'entendre. Racontons l'histoire de Noël sans nous lasser à nos enfants. Racontons à nos amis. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'éviter les discours pseudo-religieux, les questions théologiques que vous redoutez souvent. Si vous avez peur de ça, racontez l'histoire. Qui n'aime pas entendre une histoire ? Faites cesser les questions, entrez carrément dans l'histoire. On a été créé pour vibrer à des histoires. Annonçons la vraie histoire. C'est plus beau que Plus belle la vie ou Scène de ménage, je vous assure. Ça, ils n'ont jamais entendu. Ils vont être fascinés. À Roncq, dans le nord où on a habité, on avait offert une première année, après notre déménagement, des petits biscuits à tous nos voisins. Donc en disant, voilà, joyeux Noël, on se présente, et puis on voulait juste vous souhaiter un très bon Noël. C'était l'occasion de... Souvent, ils ont ouvert leurs portes, on est rentré, on a pris un café, on a fait meilleure connaissance. C'était chouette, c'était des jeunes familles comme nous, à l'époque. Je sais pas si on peut dire ça. Bref. Et l'année suivante, on a dit, bah, écoutez, plutôt que nous, on vous offre des biscuits, venez les faire, on va les faire ensemble. Donc, on a passé toute une après-midi à, et on avait annoncé, on va faire les biscuits et après, on racontera l'histoire, la vraie histoire de Noël. Donc, on a préparé les différentes pâtes, on a pris des pièces pour découper, on a mis ça ensuite au four. C'était un joyeux moment avec tous les enfants. Et pendant que ça cuisait tranquillement au four, on a pris 10 minutes pour raconter l'histoire de Noël. On a juste raconté l'histoire. Mais à la fin, les parents étaient « Ah, nous, on connaît pas bien cette histoire. On aimerait bien la raconter à nos enfants, mais on la connaît pas assez, on la connaît pas suffisamment. On est content que vous avez raconté cette histoire pour nous encore aujourd'hui. » Je voudrais vraiment vous encourager. Racontez, profitez de ce temps de l'Avent, profitez de ce temps de Noël pour raconter l'histoire encore et encore. J'ai l'impression que beaucoup sont embarrassés à raconter cette histoire, parfois. J'ai l'impression que des fois on aurait moins de mal à raconter Tchoupi, ou le dernier film qu'on a vu, que l'histoire du salut, l'histoire de la Bible, l'histoire de Noël. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on connaît mal cette histoire ? Peut-être. Rappelez-vous, c'est notre histoire. On devrait bien la connaître. L'Église est là pour ça, pour nous rappeler cette histoire. Notre temps de lecture de la parole de Dieu est là pour nous rappeler l'histoire à laquelle nous appartenons. Trouvons des moyens, en décorant nos maisons, de mettre devant nos yeux régulièrement cette histoire. Peut-être une couronne de l'Avent. Il y a des bonnes traditions avec les 4 bougies, cette lumière qui vient de plus en plus forte, qui annonce l'arrivée de Jésus. Peut-être en cuisinant, avec les chants de Noël, on peut se redire cette histoire et donner des occasions de la raconter encore et encore à ceux qui nous visitent dans nos maisons. Peut-être en décorant la maison, pour qu'on sache, on est dans un temps particulier, on est en train de vivre un moment spécial. Ça fait plusieurs années maintenant que ma sœur a eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent. Et pour chaque case, vous savez, on ouvre les cases. En fait, derrière, c'est une photo d'un des membres de la famille. Et l'idée, c'est qu'on prie pour le membre dont la photo est dévoilée ce jour-là. Voilà, un moyen très créatif de révisiter les traditions et de l'utiliser pour faire vibrer nos attentes en ce qui concerne l'action de Jésus dans nos vies. Et puis, soyons pas simplement ceux qui racontent l'histoire, mais si l'histoire nous a façonnés, si nous avons vu la générosité de Dieu, si nous avons vu la grâce de Dieu, si nous avons compris que Dieu est avec nous, alors soyons aussi de ceux qui servent autour de nous, ceux qui sont généreux autour de nous. C'est pas l'histoire des citrouilles et des sorcières que nous croyons. Nous croyons l'histoire d'un Dieu qui a fait cadeau de son Fils. Et il y a des moyens de vivre cela aussi dans la famille spirituelle qu'est l'Église. Célébrons le Fils de Dieu qui est venu comme un cadeau, non pas pour être servi, mais pour servir. Et répondons avec de la louange, avec de la reconnaissance, que en vous rappelant l'histoire de Noël cette semaine, vos cœurs soient pleins de cette reconnaissance. Thank you.